Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Financia Live. Je suis comme d'habitude accompagné d'Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va aujourd'hui ?
Plutôt bien, d'autant plus que c'est la dernière de la saison, avant la coupure
estivale. Hein. L'été arrive bientôt, bon, pas terrible au niveau
exactement.
Du temps pour l'instant, mais bon.
Et on a la chance d'avoir un super invité, comme à chaque fois.
Alors justement, on vous laisse nous présenter l'invité du jour.
Alors, Alexandre Darsa, hein, fondateur de O2 Capital, dont reconnu éminemment entre autres pour le financement immobilier, un grand spécialiste de l'obligataire, mais j'en dirai pas plus, puisqu'il nous expliquera lui-même beaucoup mieux.
Voilà, le concept de l'émission, c'est très simple, hein, 20 minutes de talk avec notre invité pour découvrir sa carrière, découvrir son business, et puis au-delà, peut-être donner de l'inspiration aux jeunes qui nous écoutent, jeunes et moins jeunes, bien évidemment, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens, surtout en cette période, qui sont en reconversion. Donc justement, on démarre tout de suite, Alexandre Darsa, du coup, président de O2 Capital, O2, hein, comme
Oxygène.
Oxygène, bien sûr. Alors, à ne pas confondre avec d'autres sociétés de gestion, et pas éponyme, hein, mais pas très loin. O2 Capital, ça vient d'où et comment racontez-nous votre parcours, Alexandre ?
Bon, déjà, bonjour Alfonso, bonjour Fabrice. Mon parcours est le suivant. J'ai commencé par faire des études de droit, un peu par hasard. Mais le droit m'a apporté une très bonne formation. C'est une structure de pensée, le droit, une rigueur. Il a fallu cependant que j'aille jusqu'au bout de mes études pour me rendre compte que je ne voulais pas devenir avocat. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et ça arrive à pas mal d'étudiants en droit. À la fin de mes études de droit, j'étais plus attiré par le business que par le juridique même, en fait. Et après, j'ai fait un master dans une grande école et puis finalement, je suis rentré dans une société de consulting. Tout ça pour dire qu'en 2004, je crois, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'être entrepreneur, ce qui était quelque chose d'assez fort pour moi. Donc, j'ai créé une petite banque d'affaires, une petite boutique de M&A.
Mmh. M&A, donc
Fusion-acquisition,
voilà.
Exact.
C'est ce que vous aviez déjà fait en tant que consultant ou vous aviez approché ce métier ?
Alors, quand j'étais étudiant en droit, j'avais fait mon pré-stage de l'école d'avocat dans un grand cabinet américain où j'avais bossé dans l'équipe de fusion-acquisition. Donc, j'avais une connaissance, on va dire, de ce métier-là. Quand j'ai monté mon entreprise, je me suis associé avec un ami qui avait passé quelques années en banque d'affaires, véritablement. Et donc, on a adjoint nos compétences. Et la société existe encore aujourd'hui. Elle fait des très belles opérations, d'ailleurs. On a démarré en 2004. Et en 2008, j'ai racheté une société qui était un de nos clients, qui était à vendre et qui était une société... Alors, c'est un métier qui ne vous parlera probablement pas et qui était très loin de mes bases, qui faisait de la maîtrise d'œuvre en bâtiment dans le sud de la France. Et donc, du jour au lendemain, j'ai dit à ma femme, bah, tiens, en fait, je crois que je vais racheter cette société. Elle m'a dit, mais j'y crois pas. J'ai dit, si, tu vois, j'ai rendez-vous demain avec le chef d'entreprise. Bon, pour faire court, parce que sinon, ça va durer très longtemps, j'ai racheté la société en 2008. Et de 2008 à 2016, je l'ai dirigée. On a transformé cette activité de maîtrise d'œuvre, une activité de plus de contractants en général. On avait toute l'ingénierie de la construction chez nous.
Et à ce moment-là, le bâtiment, c'était nouveau ou vous en avez déjà fait ou pas?
Non,
du tout.
Totalement nouveau. Donc, j'avais aucune formation d'ingénieur. Et je me suis retrouvé à manager une équipe d'une trentaine, quarantaine de personnes dans l'ingénierie.
D'accord.
Heureusement, au départ, j'étais associé. Il y avait quelques salariés clés de l'entreprise qui avaient racheté avec moi. Cependant, c'est vrai que ça a été un vrai challenge. C'était un vrai challenge de manager une équipe, de motiver des gens dans un domaine où j'avais finalement assez peu de compétences. Et ça a été assez satisfaisant d'y arriver. Et on a construit tout type de bâtiments, résidentiels, logistiques, bureaux. J'ai travaillé avec des promoteurs, avec... bref, beaucoup d'acteurs dans l'immobilier.
Alors, petite note hein, quand même, parce qu'on est en 2008 quand vous rachetez la société. 2008, il y a une petite crise financière qui passe par là. Pour le bâtiment, ça a été compliqué
ouais,
au niveau des financements.
Je crois
notamment.
Qu'on a racheté le 23 juin 2008, un truc comme ça. Et en fin d'année 2008, malheureusement, on a dû faire un plan social, justement, on a licencié à peu près un tiers des effectifs. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que, voilà, mais effectivement... Ça a été la période pendant laquelle, ce qui est assez rare, hein, quand on regarde historiquement, la promotion immobilière a beaucoup souffert. Le marché s'est complètement verrouillé et arrêté à cette période-là, ce qui est vraiment assez rare quand vous regardez finalement l'historique de la promotion immobilière sur les 20 dernières années. Et bon, après, l'activité progressivement a repris. Et c'est pour ça qu'on a changé notre activité pour devenir contractant général, qui est une activité où finalement on maîtrise un peu plus le process. Et puis voilà, puis l'économie a redémarré. En 2016, suite à la crise, on avait fait rentrer un groupe en cours de route dans le capital de l'entreprise qui avait pris la majorité. J'ai revendu mes actions en 2016 à ce groupe. Mmh. et je suis revenu habiter à Paris. Et en 2017, j'ai créé O2 en me disant, bon, écoute, tu as une formation juridique de base qui te donne quand même une manière de raisonner qui est assez importante. Tu as quand même une expérience en finance, tu sais parler à des investisseurs et tu connais quand même bien l'immobilier. Donc pourquoi pas monter un business de financement alternatif dans l'immobilier en essayant de financer des marchands de biens, des promoteurs. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Depuis 2017, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Alfonso, puisqu'on a eu le plaisir de travailler avec la financière du CES, qui est devenue un de nos partenaires forts chez O2. Et depuis 2017, on a financé, je crois, une quarantaine d'opérations, 150 millions d'euros. On a délivré des rendements qui sont supérieurs à 10% depuis le début de la société, sans cas de défaut pour l'instant. On espère que ça va continuer.
D'accord. Puisque vous financez, donc du coup, faites quoi? De l'emprunt obligataire, immobilier, emprunt bancaire,
Non, on ne fait pas du tout d'emprunt bancaire. Enfin, nous, on finance des promoteurs et surtout beaucoup de marchands de biens. De deux manières, soit ce qu'on appelle un bridge loan, où on vient financer une opération en général avant qu'il y ait une banque. Donc par exemple, il y a une certaine complexité sur une opération. On a financé l'année dernière, par exemple, des gens qui achetaient 400 places de parking. Ils avaient un problème de conformité à la réglementation incendie. Et donc en état d'actif, n'était pas vraiment finançable par une banque. On finance, on prête de l'argent, on est hypothécaire, comme si on était banquier, sauf qu'on est obligataire, donc avec un rendement qui est plus élevé. Et quand ils ont obtenu leur conformité, alors la banque est arrivée et nous a remboursé. Donc ça, c'est une partie de notre activité. C'est de financer à la place de la banque dans un contexte de risque qui fait que la banque ne peut pas être là, ou d'urgence. D'accord. C'est ou le risque ou l'urgence qui fait le contexte.
Ce qui explique dans ces deux cas, évidemment, un rendement plus élevé, puisque le risque est plus élevé.
Exactement. Donc, quand vous êtes en bridge, voilà, exactement. Vous êtes sur un budget, un prix qui est bien supérieur à celui de la banque, mais qui est justifié parce qu'il y a comme on l'a dit, une prise de risque ou une urgence qui fait que la banque peut intervenir.
Et normalement sur des durées plus courtes, bien
évidemment. Exactement. Donc dans ce contexte-là, on a des emprunts qui durent 12-18 mois. Voilà. Et l'autre partie de notre activité, c'est de tout simplement de faire de la mezzanine. Et donc, c'est-à-dire qu'on va prêter des fonds propres. La banque est là, elle prête de l'argent sur une opération immobilière. Je dis n'importe quoi. Elle va dire il faut 2 millions d'euros de fonds propres pour faire cette opération. Et nous, on va dire au sponsor immobilier, vous mettez 500 000 euros et nous, on va mettre 1,5 million d'euros. On accepte de faire de la mezzanine dans des conditions, et où tout notre ADN, c'est de se poser la question qui est de se dire qu'est-ce qui fait la différence entre l'equity et la dette ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est de l'equity et qu'est-ce qui fait que ça devient de la dette ? Donc, y a plein de critères pour analyser ça. Je peux vous en donner différents. Par exemple, dans ce métier, de manière assez commune, tout le monde dit qu'avant qu'il y ait un permis de construire, c'est de l'equity, c'est pas de la dette. Donc, c'est très dur de venir avant un permis de construire. C'est un risque qui est vraiment un risque en capital. Le niveau des ventes peut être pris aussi en considération pour considérer qu'on est plus ou moins dérisqué. Le niveau d'equity qui est mis, la complexité de la construction. Et donc, en fonction de ces différents éléments, on accepte de fournir une dette qui sera moins sécurisée que sur le bridge loan dont je vous parlais tout à l'heure, probablement un peu plus chère parce que moins sécurisée, et qui viendra compléter les fonds propres de l'opérateur. Ce qui fait que, en général, et ce qui est pas mal, et ce que je trouve vertueux dans ce métier, si vous voulez, on n'est jamais sur des actifs distress. On n'est jamais dans des situations où on vient prêter de l'argent à une société qui est confrontée à des difficultés. C'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on aime, c'est que les gens utilisent l'argent qu'on prête pour en gagner aussi plus et améliorer leur propre rendement.
Sauf qu'ils sont dans une situation, effectivement, où à un moment, ça peut bloquer ou ça peut être compliqué d'avoir ces fonds.
Pas forcément sur la partie mezzanine, parce que sur la partie mezzanine, vous pouvez avoir tout à fait trouvé un financement bancaire. Encore une fois, si je reprends mon exemple, la banque vous dit « Tiens, il faut mettre 2 millions d'euros. Oui, mais vous n'avez qu'un million ou 500 000 et vous cherchez un partenaire. Et dans ce cas-là, la mezzanine va vous coûter moins cher qu'un associé, en fait. Et donc, vous y trouvez un intérêt parce qu'à la fin, peut-être que ça va vous coûter 20-25% de votre marge, mais ça te coûte quand même moins cher qu'avoir un associé. Et vous, opérateur, vous avez quand même amélioré votre rendement, quoi. Vous avez mis, par exemple, si je reprends mon exemple, qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui n'est pas juste du tout pour tous les gens qui nous écoutent, mais si vous avez mis 50% des fonds propres et que vous avez 80% de la marge, pour vous, c'est mieux. Vous avez fait du levier sur notre argent. Et c'est ça qui nous intéresse.
Ça me fait penser à un nouvel acteur qui est, qu'on voit depuis quelques années, c'est le crowdfunding immobilier, justement, qui finance ce genre d'opérations. Est-ce que vous vous trouvez, sur certaines opérations, en concurrence avec ce nouveau mode de financement ?
Tout à fait. Le crowdfunding est devenu une très grosse concurrence. Enfin, on a un peu démarré en même temps, hein, parce que nous, on date de 2017, le crowdfunding un petit peu avant, mais bon, ils ont vraiment connu une très, très grosse croissance.
Notamment sur l'immobilier.
Tout à fait. En fait, je crois que le crowdfunding a essayé au départ de financer ou de l'immobilier ou des sociétés. Ils se sont rendus compte que financer des sociétés, c'est quand même beaucoup plus dur que de financer des projets immobiliers. Donc à peu près, globalement, une grosse partie des crowdfunders se sont maintenant réorientés vers l'immobilier. Pour nous, c'est une concurrence, c'est clair. Je dirais que, sans vouloir trop rentrer dans tout ça, mais nous, on a une différence. On n'a pas besoin de faire beaucoup de projets dans l'année. On est une petite équipe. Les plateformes de crowdfunding sont aujourd'hui des très grosses plateformes qui doivent adresser un très gros volume. Et elles financent aussi beaucoup, beaucoup de promoteurs immobiliers. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous, au départ, on a démarré avec la promotion immobilière. On s'en est un petit peu éloigné. Et on finance, enfin on en fait encore, hein, mais on finance aussi beaucoup de marchands. Et aussi on s'est développé à l'international puisqu'on a ouvert au Portugal et on finance des projets au Portugal. Voilà.
D'accord. Bon, voilà pour ce panorama, donc O2 Capital, on a bien compris. Alfonso, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur peut-être votre rencontre et comment vous avez été amené à travailler ensemble ?
Oui, bien sûr. Tous ces financements, en fait, ils doivent se retrouver avec un codizine, avec Euroclear, et donc on fait l'activité qui s'appelle agent payeur, donc une activité un peu spécifique, pas connue, je dirais, du grand public, mais plutôt des professionnels. C'est aussi ce qui différencie, je pense, avec le crowdfunding, entre autres, et je pense qu'il y a des investisseurs qui sont différents par rapport au crowdfunding. Mais du coup, toutes ces opérations, comme un titre quasiment coté en bourse, c'est un code ISIN, et donc ce titre peut être transféré dans les actifs et ça peut amener différentes possibilités. Certains font des effets de levier avec, autres rassurent aussi la banque. Il y a aussi, je pense au family office qui font des commissions sur les encours. Ils revoient du coup avec ce code ISIN. Et puis il y a la vie de l'obligation. Puisqu'à un moment, il y a des fois des remboursements anticipés, des remboursements avancés. Il y a aussi les paiements des coupons et qui peuvent être plus ou moins complexes. Et il y a toute une série, il y a de l'ingénierie énormément financière dans les obligations. Donc voilà, donc dans ce cadre-là qu'on s'est développé à tout début. Et moi, j'avais une question. Vous êtes une petite équipe, mais vous êtes combien? Parce que moi, je t'ai connu quand vraiment tu démarrais. Donc c'était le démarrage. Alors qu'est-ce que c'est une petite équipe? Parce qu'une quarantaine d'opérations, c'est quand même pas mal.
Ouais, écoute, on a aujourd'hui une analyste. Et on a un associé au Portugal et on est quatre par ailleurs. Voilà. Voilà, donc ça reste effectivement une petite équipe.
Mais très technique. Voilà.
Alfonso, on a calculé, antenne, troisième avocat qui vient sur le plateau de Financia Live, et on s'aperçoit que ça amène à des carrières complètement différentes et finalement peut-être une porosité, alors surtout dans le M&A avec le monde du business. Vous avez senti, vous nous disiez, Alexandre, très tôt, le juridique, donc c'était plus une fibre business, on l'a bien compris dans votre parcours.
Oui, tout à fait. Moi, mais je pense que même que, enfin, évidemment, ce que j'ai ressenti, c'est que quand j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocat, que j'étais plus intéressé par la problématique business que la problématique juridique. Mais pour autant, une fois que j'ai dit ça, ce que je peux dire avec vraiment certitude aujourd'hui, c'est que c'est une super formation qui donne une rigueur d'esprit, une rigueur de raisonnement qui me semble vraiment très, très précieuse. Je vous disais tout à l'heure hors antenne qu'on fait évoluer de notre activité puisqu'on va passer d'un système aujourd'hui de club deal à un système de fonds d'investissement et on va être financé par un gros investisseur américain. Et j'avais le plaisir de discuter avec le président de ce fonds qui me disait qu'il ne cible que des avocats en recrutement. Il ne cible que des gens qui ont des formations juridiques pour la rigueur du raisonnement. Et entre autres dans notre métier, particulièrement l'analyse du risque. Voilà. Donc je pense que pour les étudiants qui peuvent nous écouter, et puis après tout dépend évidemment de leurs ambitions, d'où est-ce qu'ils veulent évoluer, je pense que évidemment l'école de commerce est un très bon socle généraliste qui donne beaucoup de cartes. Parfois peut-être ajouter un ou deux ans de droit, pour les gens qui veulent aller faire plutôt du business en droit des affaires, peut amener une qualité de raisonnement, je pense, qui est assez précieuse plus tard.
Bien sûr.
De rigueur.
Sur ce point, chez Financia, on a un parcours finance d'entreprise qui correspond à toutes ces activités-là. Et souvent, les étudiants sont surpris parce que, voire peut-être presque, ils nous reprochent, qu'ils considèrent qu'il y a énormément de droit. Et donc, ils considèrent que ce n'est pas de la finance et on essaie de leur expliquer que l'évolution du métier va vers des connaissances de droit extrêmement poussées. Et donc, aujourd'hui, sur un programme plutôt financier, vous avez quasiment proche de 50% de cours de droit chez Financia. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la réglementation, il y a aussi toute la partie conformité, KYC, tout ça, c'est des bases qui sont juridiques très, très, très importantes. Moi, j'avais une... je voulais en profiter d'avoir Alexandre ici et voir s'il avait une opinion... sur le marché immobilier, bon, c'est toujours difficile de s'exprimer, mais quand même en tant que spécialiste du financement, voir un petit peu quelle était ta vision pour l'avenir de ce marché. Il y a la question des taux, on a crainte de remonter, mais pour l'instant, ça reste en bas. Alors, on voudrait avoir ton opinion.
Alors bon, je vais essayer de répondre. Je n'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a deux facteurs qui sont très... pour moi, très opposé. On a d'une part des taux très bas et qui créent forcément, si ce n'est pas une bulle, en tout cas une envolée des prix et qu'on ressent tous à titre privé. On voit bien que les prix sont importants, élevés partout. Mais d'un autre côté, en France, particulièrement encore plus sur Paris, on voit bien qu'il y a un déficit de la demande. Un déficit d'offre. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui. Et donc ça, ça alimente de manière... C'est-à-dire que malgré tout, malgré ces prix très hauts, il y a de la demande en face. Et donc ça, c'est assez sain. À quel moment est-ce que ça s'inverse ? À quel moment est-ce qu'on dit, tiens, il y a trop d'offres et la demande n'est plus satisfaite ? En France, structurellement, on sait que ce n'est jamais le cas. Donc c'est assez dur, en tout cas pour la France, de dire à quel moment est-ce que le marché se retourne. Évidemment, on peut être confronté à un point qui est la remontée des taux. On a tous du mal à l'anticiper parce qu'on a tous quand même l'impression que cet univers des taux bas, il devient très durable. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans le marché immobilier, une grosse partie de la valeur, pour ce qui n'est pas résidentiel, est faite par les taux. C'est-à-dire qu'on capitalise un loyer. Et donc, s'il y a une remontée des taux, il va y avoir une baisse très forte de la valeur des actifs. Mais cependant, personne ne voit le moment où ça va se produire. Et même tous ceux qui pensaient qu'avec le Covid, ça allait être le cas, en fait, ça a un peu fait mentir le sujet. Alors même s'il y a quelques secteurs immobiliers qui ont souffert, l'hôtellerie notamment, et c'est bien normal... Et la partie bureau, parce que tout le monde s'interroge un peu sur les évolutions du télétravail et donc la nécessité d'avoir des grands bureaux. Mais enfin, on voit bien que le marché, en tout cas, il s'est quand même maintenu. Voilà, il n'y a pas eu de... Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des fondamentaux qui restent assez solides.
J'ai une autre question, peut-être plus personnelle. Quand on regarde le board d'O2 Capital, on voit Alexandre Darsa et Nicolas Darsa. Ouais. On travaille en famille ?
Alors c'est récent. Et donc, c'est lié un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on changeait d'activité et qu'on passait de ce business model de club deal à ce business model d'asset management. Mon frère et moi, on a accompli deux carrières totalement différentes puisque mon frère est un pur produit financier qui a travaillé chez Goldman Sachs et pendant de nombreuses années, puis après qui a travaillé dans des fonds en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, moi, comme vous l'avez compris, j'ai une carrière qui est plutôt entrepreneuriale et assez avec des étapes très différentes. Sauf qu'à un moment donné, nos expériences se sont retrouvées, parce que lui, il travaillait dans des fonds aux États-Unis où il faisait un peu notre même métier de la dette. Mmh. Et il avait d'une part envie de revenir en France, et il avait des compétences complémentaires aux miennes. Et donc, je lui ai dit, écoute, arrête, rentre ici, viens, on va bosser ensemble, on va développer la société.
Et, voilà. Comment ça se passe de travailler avec son frère ? Alors, voilà, le profil est complémentaire, il connaît bien le système. Au jour le jour.
J'ai eu la question ce matin. Franchement, ça se passe très bien. Je pense que, déjà, il n'y a pas que mon frère dans la société. Hein, donc parce que j'ai quand même des gens qui travaillent depuis de manière historique dans la société. Je ne voudrais pas qu'ils se vexent en m'entendant parler que de mon frère. Mais mon frère est arrivé récemment. Mais ça se passe très bien parce que je crois qu'on a un ADN commun. Et que ça, c'est un gros point fort. Quand vous partagez les valeurs avec quelqu'un et que vous avez une relation de confiance... c'est pareil, l'association, c'est vraiment quelque chose de très compliqué dans la vie professionnelle pour ceux qui se projettent là-dedans, parce que la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain, en fait. La valeur d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc il faut pouvoir s'inscrire dans la durée. C'est vrai qu'avec un frère, je trouve que c'est assez facile.
Ah, c'est plus facile en général, hein, vous l'avez. Voilà, alors que les associés, mais vous avez aussi d'autres associés.
Exactement.
Voilà, ça se passe aussi bien, mais c'est une rencontre, tout à fait, et ça dure depuis longtemps.
Bah, pour eux deux, ça dure depuis 4 ans, tout à fait, et ça se passe... Ça se passe bien, on est tous à une étape charnière, on transforme l'entreprise, comme je vous disais, mais tout le monde adhère à un projet commun. Et c'est ça le plus important, et c'est d'accepter aussi chacun les valeurs de l'autre. Enfin, quand je dis les valeurs, je ne parle pas des valeurs humaines, hein, je voulais dire plutôt les compétences de l'autre, en fait. Voilà. On ne peut pas être bon dans tout, donc essayez d'arriver à trouver des gens qui vous apportent quelque chose. Je pense que ça, c'est très important.
Et oui, la force du collectif, de l'équipe, on en a beaucoup parlé dans d'autres matières, sportives notamment en ce moment. Ouais. Mais on a vu, hein, quand ça se passait bien, c'est quand même mieux, notamment avec cette belle équipe d'Italie. Une dernière question, une dernière remarque, peut-être, Alfonso.
Oui, alors, J'avais une petite question toujours que j'aime bien poser aux entrepreneurs. Et c'est vrai, pour qu'on ait beaucoup d'avocats, il y avait un avocat qui nous a fait une remarque très intelligente en disant déjà qu'on était avocat, il était déjà entrepreneur. Puisque même dans un cabinet, il faut quand même développer ses clients. Et donc, je pense qu'il y a un lien. Et donc, sur la partie entrepreneuriat qui m'intéresse énormément, comment tu vois O2 Capital dans 10 ans, dans 15 ans, ou même si on n'a toujours pas de boule de cristal, mais les perspectives, comment tu imagines ce développement?
Comme ce que je dis, c'est que je crois que c'est la troisième société, donc, puisqu'il y a la première banque d'affaires, après la société que j'ai rachetée en immobilier, et puis O2, c'est la société des trois qui a le plus vite démarré. Depuis le début, on sent qu'on est sur un marché qui est porteur et dynamique. On a la chance aujourd'hui d'être financé par, comme je le disais tout à l'heure, un gros LP américain qui nous met le pied à l'étrier. Et donc on a des ambitions importantes, on veut devenir un peu un one-stop shop dans le real estate avec différents produits auxquels pourront souscrire pour venir des acteurs immobiliers. Et on veut vraiment développer une belle plateforme d'asset management et en s'appuyant sur les qualités qu'on a, les investisseurs qu'on a, le track record qu'on a créé. Voilà.
Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur O2 Capital.
C'est ce qu'on vous souhaite de mieux pour l'avenir.
Merci Alfonso.
Voilà, on suivra ça avec attention. En tout cas, un grand merci Alexandre Darsa d'avoir participé à cette émission, nous avoir un peu donné quelques pistes. Voilà, pour ceux qui, on l'a compris, ont cette formation de juriste, mais pas que. On peut s'en servir pour bâtir beaucoup de choses, hein, créer des sociétés et puis faire différentes expériences. En tout cas, un grand merci.
Merci à tous les deux.
Et
merci beaucoup.
À très bientôt. Merci Alfonso.
À très bientôt. Bonnes vacances.
On se retrouve après les vacances pour un prochain numéro de Financial Live. Très bonne journée à tous.
Financial Live, une émission proposée par Financia Business School, à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.